בוקר טוב. Voilà, chers amis, nous allons en ce dernier cours de la rue Blaise Pascal. La semaine prochaine, c'est rue Boutard, Bézat Hachem.
Jusqu'à dans 3 ans.
Et on va maintenant se poser des questions selon on va suivre le chemin du Shem Ishmoël ce matin. Et le Rav nous pose quelques questions basées sur la simple lecture des mots. Et on va essayer de les répondre à ces questions. Quelques questions d'abord. Alors, on est au début de la paracha. Et la question que pose Paro à Moshe, c'est de savoir qui va partir. Mi va mi aolchim. Qui c'est qui va partir? Mi va mi aolchim. Ayom Moshe binarenu ubizkenenu nelech. Bevanenu ubivnotenu betsonenu vkirenu nelech. Ki chag l'Hashem lanu. Nous allons partir, nos jeunes enfants comme nos anciens, nos enfants, nos fils comme nos filles, notre petit bétail et notre gros bétail, qui n'chag Hachem lano. C'est la fête pour Hachem, pour nous. Alors, ça c'est donc la première partie. Donc il y a une certaine, on va dire, assouplissement de la part de Paro qui a l'air de quand même ouvrir une porte. Lochen de Chuna Gevarim. Donc chapitre, page 366, verset 11. Lachen, lochen, lechou na hagevarim, veibdo et Hachem. Que les hommes partent. Donc on a ici une ouverture qui est la suivante, c'est que les hommes partent. Lechou na hagevarim.
C'est entrouvert.
Il a entrouvert la porte. Lechou na hagevarim. Très bien. Donc on commence à déjà sentir que... Ensuite on prend la page 368. Au verset 24, vous savez, chapitre 10, verset 24, Vaikra paro el Moshe, Vayomer lechou ivdu et Hachem. Allez servir Hachem, rak tzodchem, uvkachem yutsa gam tabchem yelechimachem. Et il lui dit, allez servir Hachem, simplement que votre bétail, votre gros bétail, votre petit bétail reste. Donc là, il ouvre la porte même pour toute la famille. Allez-y. Simplement, je vais retenir le bétail. En fait, pour lui, c'est un moyen de garantir le retour des ministres. Vayomer Moshe, gamata titen beyadenu. Vous avez cette phrase. Toi aussi, tu vas mettre dans nos mains zevachim veolot, des sacrifices. Veasinu l'Hashem Elokeinu, nous ferons pour Hashem notre Dieu. Vegam iknenu yelech imanu, notre petit bétail ira avec nous. Et là, il y a quelque chose qui est étonnant. Il nous dit, toi Paro, tu vas participer. Tout d'un coup, Paro va commencer à porter des sacrifices. Alors ça, c'est écrit dans le texte de la Torah que Paro va apporter des sacrifices. Sauf que dans le Midrash, Amar lo Moshe lote savour shenu nisbar michel nu klum. Nous n'allons rien apporter de chez nous. C'est toi qui vas être le contributeur de nos sacrifices. Tu vas nous donner tes bêtes et nous allons faire des corbanotes avec tes animaux. Alors là, c'est vraiment très 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 violent. Très dur, quoi. Paro, tout d'un coup, ça va être lui qui va avoir des sacrifices. On cherche. Alors là, le Rav demande, mais je comprends pas. On sait très bien que les sacrifices, par définition, c'est un sacrifice. C'est-à-dire, c'est un effort qu'on fait soi-même. Faire des sacrifices avec quelqu'un d'autre, ça ressemble à quelqu'un qui va voler de l'argent de quelqu'un d'autre. Il dit, tiens, je vais voler l'argent et puis je vais faire un sacrifice. Quelqu'un qui fait un don à une synagogue, ah, magnifique, bravo le don. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé la veille un très énorme butin. Il dit, bon, je donne le maaser. Il donne le maaser de son butin. Ça, c'est pas un sacrifice. Un sacrifice, c'est prendre quelque chose qui t'appartient. Tu fais un effort financier. C'est pas évident. Tu t'investis, tu t'impliques. Mais de dire qu'on va apporter les sacrifices qui sont en fait les bêtes de Pharaon, non. Il y a un petit problème là, quand même. Donc ça, c'est quand même étonnant. Ensuite. il faut comprendre que déjà, quel est le but de ces différentes, on va dire, message que Moshe envoie à Paro. Il lui dit, on veut Veyedou Mitzrayim qui ané Hashem. On veut que les Égyptiens sachent que je suis Hashem. Bezot Teda qui ané Hashem. Ainsi tu sauras que je suis Hashem. Le man Teda qui ané Hashem Elokeinu, etc. Il y a des phrases nombreuses que vous verrez dans Bo, que vous avez eues dans Vaera, que vous avez eues dans Shemot, où on a l'impression qu'on a ici une sorte de combat. On veut que les Bnei Israël, que Pharaon, que l'Égypte entendent, croient, voient et sachent. Alors là, vraiment, vraiment, on est étonné. Qu'est-ce qu'on a besoin de convaincre les Égyptiens? Est-ce que les hommes ont besoin de savoir, de connaître Hachem? Quel est le but ici? Notre but à nous, c'est que nos bons juifs viennent en Eretz Kenan, qu'ils écoutent et qu'ils croient en Dieu. Mais le reste, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème à nous de savoir si Pharaon, il va croire ou il va pas croire, il va être ceci ou cela. Non, ce n'est pas notre problème. Pharaon, ce n'est pas le sujet. Le problème de ce Pharaon, c'est tout simplement qu'il nous laisse partir. Mais pas qu'il apprenne, qu'il reconnaisse, qu'il sache, etc. Mais c'est quoi l'idée là? On a l'impression qu'il faut le convaincre. Est-ce qu'on a besoin de convaincre Pharaon? Ça, c'est la question qui se pose.
Amen.
Messieurs, le Zohar HaKadosh nous dit quelque chose de bouleversant. Ce matin, révélation de Zohar HaKadosh. Relek Bet, page 67, dans Zohar HaKadosh, vous vérifierez. Lo nitna ha-Torah. La Torah n'a pas été donnée. Adeati par o ve-ode, yitro ve-ode. La Torah n'a été donnée que lorsque Paro a avoué, a accepté, a reconnu, et lorsque Yitro a reconnu. C'est-à-dire quoi? Oda ici, adhésion. D'ailleurs, c'est le même mot qu'en français. Adhésion, Oda. C'est-à-dire adhésion aux principes qui ont été édictés par Akadosh Baruch Hu. Il faut que Paro et que Yitro acceptent. À ce moment-là, la Torah peut être donnée. Sans cela, pas de Torah. Alors, vous savez tous que Yitro est venu juste avant Matan Torah. Ça, vous le verrez dans Parashat Yitro, parce que Yitro, c'est la Parashat Matan Torah. Et Yitro arrive. Ça, vous le savez très bien. Mais que Paro a adhéré, peut-être vous ne le savez pas. Le Midrash nous dit qu'après le passage de Kriyat Yamsouf, là, finalement, il a accepté. Mais c'était un peu tard parce qu'il n'y avait plus personne derrière lui. Il n'était plus Pharaon. Il était juste un monsieur, un individu qui avait peut-être une belle histoire, mais qui finalement, peut-être une histoire catastrophique puisqu'il a perdu tout son peuple. Donc, ce n'était plus le Pharaon. Alors, là-dessus, dernière question, et après je passe aux réponses, parce que quand même, on va laisser sur des questions. On a Datan et Aviram. Datan et Aviram, ce sont deux personnages très, très peu sympathiques. Ce sont des gens qui sont toujours là, en train de casser le moral, de détruire, d'attaquer Moshe. Ils ont une chutzpah, une effronterie. Ils sont terribles. Qui sont Datan et Aviram? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, Moshe et Aaron sortent. Qui ils rencontrent? Datan et Aviram. Et qu'ils leur disent, mais c'est vous, qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous avez fait à cause de vous? Il y a des décrets terribles qui se sont abattis sur nous. Ils parlent très, très violemment à Moshe et à Aaron. Très violemment. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Rabota, écoutez bien. Comment est-ce qu'on peut parler violemment à Moshe et Aaron sachant ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes conscient de ce qui s'est passé? Vous savez que rentrer dans le palais de Pharaon, ce n'est pas un moulin ouvert. Chacun rentre et dit, tiens, Pharaon, j'ai quelque chose à te demander. Tiens, voilà, vous avez besoin d'un... Non, rentrer chez Pharaon, c'est déjà, vous avez devant la porte deux lions. Et des lions pas très sympathiques qui sont habitués à dévorer de l'homme, de la chair humaine. Donc ils sont là. Et Moshe et Aaron veulent rentrer. Alors on dit, allez-y, si vous voulez, vous allez voir ce que vous allez voir. Et bien justement, ils rentrent, les lions commencent à grogner, à rugir, à être comme se réveiller. Il prend son sceptre, son bâton, pardon, le maté, et il les mate. Et en deux minutes, les deux lions, au lieu de s'attaquer à Moshe et Aaron, commencent à frétiller de la queue comme deux petits chiens. Et ils lui font la fête à Moshe et Aaron, ils les accompagnent jusqu'à devant Pharaon. Donc, si vous voyez ça, vous dites, oulala, Moshe Aaron, c'est pas n'importe qui, ils ont quand même des forces incroyables. Et pourtant, Datan et Aviram malgré tout ce qu'ils voient chez Moshe Aaron, qui quand même ont une certaine prestance et en plus qui ont des miracles, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont de plus en plus effrontés. Ce sont les anti-Moshe Aaron. Il y a Moshe Aaron et Datan et Aviram, c'est les anti-Moshe Aaron. On est quand même étonné par leur chutzpah, leur effronterie et comment la Torah rappelle et insiste sur ce qu'ils ont fait. Parce que finalement, c'est des gens de peu d'importance. Pourquoi insister sur leur effronterie? Voilà. Maintenant, ici, le Shem Ishmael va nous donner une révélation d'un très haut niveau. Je vais vous dire tout simplement, peut-être vous ne le saviez pas, mais le soir du Seder, vous le dites sans le savoir, Goy, Mikerev, Goy. Cette phrase, c'est trois mots. Goy, Mikerev, Goy. Ça veut dire quoi, Goy, Mikerev, Goy? Un peuple à l'intérieur d'un autre peuple. À quoi ça nous fait penser? À un fœtus qui se trouve dans le corps de sa maman. Et donc, il y a un Goy, Mikerev Goy, c'est-à-dire que le peuple juif est comparable au fœtus dans le corps de sa mère. C'est-à-dire qu'il est totalement sous influence égyptienne. Sous influence égyptienne. Il est de la même façon qu'un fœtus, puisqu'il mange que sa mère mange, il est influencé par tout ce qui passe par sa mère. Eh bien, le peuple juif se trouvait dans cette situation. Et d'ailleurs, vous avez un verset dans la Torah qui, malheureusement, est peu connu. C'est écrit dans « Vayareu otanu hamitzrim ». Vous vous rappelez cette phrase dans la Haggadah de Pessah ?« Vayareu otanu hamitzrim ». Comment c'est écrit « Vayareu » ?« Milashon ra ». Ra, ça veut dire « mal ».« Vayareu otanu », ils nous ont fait du mal. Non. « Vayareu otanu hamitzrim », ils nous ont rendu mauvais. « Vayareu otanu hamitzrim », les Égyptiens nous ont rendu mauvais. « Vayareu otanu hamitzrim ». Asu otanu ra'im, comment disent les commentateurs. Ils nous ont rendu mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, comme on est comme un fœtus à l'intérieur d'une mère, donc effectivement on est influencé par le style égyptien. Les Égyptiens ont une influence négative sur ceux qui se trouvent dans l'Égypte. Et quelle est l'influence négative number one que nous ressentons en Égypte? C'est justement une dimension d'effronterie. Pourquoi? Parce que leur leader, il s'appelle Paro. Et il dit cette phrase. Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. Donc on est dans Parashat Shemot. Regardez bien ce verset. Donc Moshe, vous le savez, hésite longtemps avant d'aller rencontrer Pharaon. Mais il va le rencontrer finalement. Voilà, on est à la page 334. C'est le chapitre 5, verset 2. Hé, bet. Vayomer paro, mi Hashem, asher eshma bekolo, le shalach d'Israël. Lo yadat it Hashem, ve gamet Israël, lo ashaler. Je traduis. Donc, paro dit, qui est Hashem, asher eshma bekolo, pour que j'écoute sa voix en renvoyant Israël. Je ne connais pas Hashem, je ne renverrai pas non plus Israël. Ici, le Sforno. Sforno, c'est un grand commentateur italien. Rabbi Ovadia Sforno, il dit comme ça. Mi Hashem Eshma, je ne connais pas Hashem, c'est qui Yud Kevavke? Yud Kevavke, j'ai jamais entendu parler. Je connais Elohim, mais je ne connais pas Yud Kevavke. Mi Hashem, mi Yud Kevavke. Qui c'est ce Yud Kevavke dont vous parlez? Il prend son calepin, ses notes de Dieu, parce qu'il a une grande, un annuaire des dieux. À l'époque, c'était à la mode, chacun avait son dieu. Il dit bon, Yud Kevavke, je ne connais pas. Je connais Elohim, bon, mais je ne connais pas. Il dit Le Shalach at Israël, pour renvoyer Israël. Dit le Sforno, c'est il dit, mais même si je le connaissais, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Et il est, dit le Sforno, en train de dire, le shalach d'Israël, lo yadati et Hashem, ve gamet Israël lo ashalach, il dit cette phrase, et aussi Israël, je ne renverrai pas. Il y a, vous voyez, dans le pshat du verset, un problème. Je ne connais pas Hashem, et aussi Israël lo ashalach. C'est quoi cette phrase, ve gam, et aussi je ne renverrai pas Israël? Qu'est-ce qu'il veut dire?
En tout état de cause.
Vegam en tout état de cause. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, même si je connaissais Yud Kivavke, même si je le connaissais, je ne renvoie pas Israël. Donc il est dans un état de rébellion. Il dit, voilà, même si je connaissais, je n'en veux rien à faire. Donc il y a une notion d'arrogance, une arrogance, une effronterie de la part de Paro qui est extrême, extrême. D'abord, il ne connaît pas, mais après, il dit, même si je connaissais, j'en ai rien à faire. Il ne se laisse pas du tout impressionner. Et c'est dans ce pays que nous vivons. Or, dans ce pays où nous vivons, nous sommes influencés par ce pays. Et donc, automatiquement, les Juifs qui vivent en Égypte ont cette notion de chutzpah, de rébellion, etc. Maintenant, nous savons tous que nous avons hérité de nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, trois qualités. Que dit la Gemara dans Yevamot sur les trois qualités du peuple juif ? Rachmanim, nous avons de l'empathie. Baishanim, nous avons de la retenue. Et Gomle Chassadim, nous sommes généreux. Mais Baishanim, ça veut dire une forme de retenue. L'inverse de la chutzpah, l'inverse de l'effronterie, l'inverse de la l'arrogance. Baishanim.
On a été très marqués quand même.
Pardon ?
On a été marqués, influencés.
On est arrivé dans quelques instants, tu vois. Et nous dit. Justement, Datan et Aviram sont l'exemplarité de ceux qui ont été influencés par les Égyptiens. Ils représentent les hommes influencés par les Égyptiens, donc qui ont une effronterie sans fin, une arrogance sans limite. D'accord ? Ça, c'est Datan et Aviram. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que nous, on va sortir d'Égypte ? Quelles sont les conditions minimales pour pouvoir sortir d'Égypte ? Il y a des conditions. Ces conditions, il n'y en a qu'une seule en fait. Il y en a une seule. Il est très important d'écouter ce shiur parce que ce shiur est extrêmement d'actualité. Pourquoi ? Parce que le Rav va dire par la suite qu'il y a une Gemara que vous connaissez peut-être pas à la fin dans Sota et qui a de plus en plus, en vérité, d'actualité aujourd'hui. On nous dit qu'à la fin des temps, il va y avoir, vous le savez, quelque chose de très particulier. Qu'est-ce qui va se passer ? Chutzpah Yasgé. Il y aura une effronterie sans limite. D'accord ? Par exemple, le Rama nous dit Bat Kama Be'ima. Une fille se lèvera contre sa mère. Ben Menavel Av. Le fils sera extrêmement désobligeant envers son père. Kala Bechamota, la belle-fille avec sa belle-mère. Oive Ish Anche Beto, les hommes de sa maison deviendront ses ennemis. On parle de la fin des temps en nous disant qu'à la fin des temps, cette chutzpah, cette effronterie, cette arrogance sera de nouveau de mise. À la fin des temps. Mara, dans Sota, dernière page. Et il y a beaucoup de choses que je ne cite pas, mais la Gemara dit, pour terminer, pour marquer vraiment le coup, Zekenim, les anciens, se lèveront devant les jeunes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui sera apprécié, ce ne sera pas la sagesse des anciens, mais le dynamisme des jeunes. Donc vous allez voir, faites l'expérience. Ceux qui sont ici cinquantenaires, allez essayer de vous faire embaucher,
ou plus,
allez vous faire embaucher dans une société à la défense. On vous dira, monsieur, bien écoutez, j'ai beaucoup d'expérience et j'ai un bon CV. Je veux dire, monsieur, la porte, elle est là. Arrive un petit jeune de 25 ans qui vient de sortir d'HEC ou de Polytechnique. On vous attendait, monsieur, le tapis rouge. On commence à combien pour le... Qu'est-ce qui se passe ? Il est jeune. Il a l'envie, on va le former, on va le lancer. Ça veut dire que l'expérience et la sagesse, on est en général méfiant, alors que la jeunesse, nous, au contraire, c'est que le zaken se lève devant le jeune. D'accord ? Ça, c'est important de savoir. C'est-à-dire qu'en fait, on va choisir la jeunesse. On regarde le président de la République, il n'a pas 40 ans, il est élu. Ça veut dire qu'il y a une sorte de jeunesse qui est triomphante. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un système d'arrogance et de chutzpah. C'est-à-dire qu'on est en train de changer l'ordre des choses. Bon, maintenant il faut comprendre comment on sort d'Égypte. Comment on sort d'Égypte et comment on sort de cette notion de chutzpah. Alors il y a ici une solution. Quelle est la solution ? Ça s'appelle Dam Pessah et Dam Mila. Voilà. Il faut bien comprendre que il faut comprendre ce qui s'est passé en Égypte. Alors, numéro un, premier élément de réponse à nos questions, c'est que si on a pu, à un moment, sortir d'Égypte, parce que justement, Paro avait baissé son niveau d'arrogance. Il a baissé son niveau d'arrogance. À quel moment il le baisse ? dans Parashat Bo, lorsqu'il entr'ouvre la porte en disant « Oui, les garçons, les hommes, ils peuvent y aller, les hommes. Laissez ici les femmes et les enfants, mais les hommes peuvent y aller. » Jamais il avait ouvert la porte. Jamais il avait écouté la moindre concession, il avait cédé la moindre concession. Il propose une forme d'accord dans lequel il fait une concession importante, puisqu'il laisse partir tous les hommes valides. C'est eux qui travaillent, c'est eux qui construisent. Il les laisse partir, donc son arrogance a baissé d'un cran. C'est ce qui permet de préparer éventuellement une sortie d'Égypte. Parce que si notre mère nourricière, l'Égypte, perd de sa superbe et de son arrogance, ça laisse au fœtus juif la possibilité de quelque part baisser aussi son niveau d'arrogance qui n'est pas naturel, parce que lui, il est Baïchan, il est descendant d'Avraham Yitzhak Yaakov. Oui, mais il est sous influence égyptienne. Mais là, on est moins sous influence égyptienne parce que, justement, on a baissé ce niveau d'arrogance. Qui a baissé ce niveau d'arrogance ? L'Égypte a baissé ce niveau d'arrogance. Les serviteurs de Pharaon lui disent, il faut les sortir, ça suffit. Dis-leur de partir. Donc, vous voyez, c'est important de comprendre ce début de Parashat Bo où il y a une véritable commencement de début d'un processus. Le processus, il va s'appeler comme ça. D'abord, on va demander aux Juifs, écoutez bien, il y a deux choses qu'il faut réaliser. Le Corban Pessah, ça demande beaucoup, beaucoup de courage de prendre un Corban Pessah. Et justement, Hachem, qu'est-ce qu'il a dit ? Vous le prendrez 4 jours avant. Pourquoi est-ce qu'on le prend 4 jours avant ? Parce qu'il va falloir le visiter, regarder s'il n'y a pas de défaut. Donc, 4 jours avant, on vérifie qu'il n'y a pas de défaut. Ça veut dire quoi, chers amis ? Ça veut dire tout simplement que 4 jours avant, on prend notre courage à deux mains. C'est pas facile de prendre un agneau. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet agneau, monsieur le juif ? Eh bien, je vais l'égorger. Ah oui, c'est mon idole. Donc, ça demande beaucoup de courage. Ça veut dire qu'il va falloir sortir de l'Égypte. On sort d'Égypte à ce moment-là. En moins, on prend l'agneau. Parce qu'à cet instant-là, on a le courage d'affronter une civilisation qui fait de l'agneau une idole. Donc ça demande... Mais quel moment ça arrive, dit le Shem Ishmael ? Après Rocher. Et à Rocher, il avait encore plus ouvert la porte Pharaon, puisqu'il a dit « J'autorise les hommes, les femmes et les enfants de partir. Vous laissez juste votre bétail ici. » Ça veut dire qu'en fait, il a encore plus ouvert la porte. Donc ça nous permet à nous d'agir et de trouver le courage de nous affranchir d'une certaine arrogance qui est celle d'Égyptienne et de gagner en une dimension qui s'appelle la Tmimout. Et là, je voudrais que vous écoutez bien, c'est quoi la Tmimout ? C'est quoi la Tmimout ? Il faut bien comprendre qu'ici, si vous lisez Parashat Bo sans savoir ce que je vous dis maintenant, vous êtes à côté de Parashat Bo. Parashat Bo, c'est vrai que c'est un cadeau qu'Hachem nous donne. C'est sûr qu'Hachem nous donne un grand cadeau qui est la sortie d'Égypte, sortie VIP. Franchement, magnifique. Mais il y a un problème. C'est qu'il ne nous dit que ce n'est pas gratuit. Il y a une condition préalable à la sortie en Égypte. Cette condition s'appelle Tmimout. En un mot, Tmimout. C'est quoi Tmimout ? C'est quoi ce mot Tmimout ? Je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir faire des actes très concrets pour marquer une confiance absolue en Hachem. Premier acte, Brit, dont on avait dit prendre l'agneau pascal. Vous l'avez entendu. Deuxième acte, Brit Mila. Maintenant, la Brit Mila se fait à quelle heure et quand ? Elle se fait la veille du départ, alors que vous savez très bien que on a très bien vu dans la Torah à plusieurs reprises que ça fait mal, et en particulier le troisième jour, on va partir en voyage, c'est pas du tout le bon moment pour choisir de faire une opération chirurgicale, surtout à l'époque, avec les risques d'infection, etc. Vous restez à l'hôpital quelques jours, vous allez changer le pansement, et là il s'agit de faire cela à des milliers de personnes. Mais c'est une folie de faire ça à la Brit Mila la veille du départ. Pourtant c'était indispensable que sans Brit Mila, pas de Korban Pessah. Vous savez très bien que Korban Pessah ne peut pas être mangé par quelqu'un qui est Harel, qui est à la Orla. Donc il faut faire la Brit Mila. Brit Mila exige une dimension de confiance, parce que qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Ils étaient tous malades, ils étaient en train de boiter. Vous avez remarqué, vous avez vu, une fois j'étais à une Brit Mila d'un monsieur assez âgé, et lorsque je l'ai vu 3 jours plus tard, je peux vous dire, pendant la Brit Mila, il rigolait parce qu'il avait une anesthésie locale. Donc il parlait, machin, moi j'étais comme ça, j'avais envie de m'évanouir. Et lui, après 3 jours, c'est moi qui étais en pleine forme, et lui, il était... C'était pas évident pour lui, il avait du mal à marcher, ça faisait mal. Pourquoi ? Parce que c'était en train de cicatriser. Tout simplement, rien que pour vous expliquer ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc ça veut dire que mettre des milliers de personnes dans des situations de maladie, lorsqu'ils doivent partir dans un désert, etc., c'est une folie pure. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ben on y va. Ils ont dit on y va, et ils ont guéri miraculeusement très vite. Ça a rapidement cicatrisé, c'est un miracle. Mais vous ne savez pas qu'il y aura un miracle. On ne vous dit pas qu'il y aura un miracle. Il faut le faire, et puis s'il y a un miracle, tant mieux. C'est ce qui s'est passé. Miraculeusement, guérison rapide, cicatrisation instantanée. Magnifique. Mais c'est un acte, encore une fois, de confiance. Ensuite, on va écouter, mais si on s'en va, alors dites-moi, c'est quoi l'hôtel 5 étoiles où on va se descendre demain soir ? Ouh là là, l'hôtel 5 étoiles, c'est des tentes dans un désert. Donc dans le désert, avec tous les scorpions et les trucs, et les animaux, les enfants qui sont en bas âge, qui vont marcher. Vous imaginez bien qu'ils n'avaient pas des grandes bottes, mais ils n'avaient même pas de quoi se... Ils vont marcher dans le sable, où il y a partout des serpents et des machins. Vous dites, attendez, et avec quoi on va manger ? Quels sont le ravitaillement ? Le ravitaillement, c'est des matzot. Merci, combien de temps ? Ça va durer un mois. Bref, vous allez vers l'inconnu, vous allez avec votre femme et vos enfants, dans un endroit désert, avec des animaux sauvages très très dangereux, et vous avez la sécheresse, la chaleur, bref. Vous êtes dans une situation catastrophique. Et qu'est-ce que vous dites ? On y va. Et vous y allez. Ce n'est pas un hasard si Hachem a mis les choses de cette façon-là, mais il a voulu... Voilà, je peux vous sortir d'Égypte qu'à une condition. Si vous arrivez à couper le cordon ombilical, et c'est le cas de dire, et de vous dissocier de l'effronterie égyptienne, de ce pharaon qui dit « Qui est Dieu ?» Et d'ailleurs, si je le connaissais aussi, je lui dirais « Zut !» Voilà, vous êtes dans cette influence-là. Si vous ne sortez pas de cette influence-là, je ne peux rien faire avec vous. Il y a une forme de confiance, de émouna, de confiance à Hachem qui est indispensable pour sortir d'Égypte. Sinon, vous ne pouvez pas sortir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu ? Il a fait en sorte que Paro, vers la fin, perde un peu de sa superbe, c'est-à-dire baisse un peu son arrogance, de manière à ce que les Juifs puissent envisager de sortir de cette influence, parce qu'ils sentent déjà que Pharaon, il baisse un petit peu, et donc c'est une ambiance générale de début d'acceptation, ce qui leur permet à eux de réagir autrement. Et c'est pour cela que lorsque Paro... On parle de sortir d'Égypte et de faire des sacrifices. On lui dit, tu sais, c'est toi qui vas donner des sacrifices. C'est toi qui vas donner des sacrifices. Pourquoi est-ce qu'il faut que lui participe ? Parce que si lui ne participe pas, si lui n'adhère pas, on ne pourra pas sortir d'Égypte. Il faut que l'Égypte, quelque part, baisse la garde pour que les Juifs puissent être prêts à sortir. Sinon, on n'arrivera pas à s'en sortir. Maintenant, il faut savoir la chose suivante. À chaque instant, Akadosh Baruch Hu nous met dans une situation compliquée. Exemple encore. On est en train d'avancer tout droit, et puis tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu nous dit, tu sais, il faut faire marche arrière. Vous vous rappelez, devant la mer, il y a ce qu'on appelle la marche arrière vers Pi Hachirot. Hachem veut qu'il s'installe exactement en face de la dernière idole égyptienne qui est restée entière. Parce que je vous rappelle que dans Parashat, bon, peu de gens savent que le soir du Seder, il y a eu la mort des premiers-nés, ça tout le monde sait, mais qu'il y a eu la liquéfaction, la destruction de toutes les idoles. Sauf une, Baal Tsephon. Baal Tsephon, ça avait la face d'un chien, elle avait la tête d'un chien, et elle se trouvait face à la mer. Et qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu ? Il dit aux Juifs, vous allez vous installer en face de cette idole qui est la seule qui est restée entière. Vous imaginez, les Juifs disent, mais qu'est-ce qui se passe ? On est en train de faire marche arrière, on se rapproche des Égyptiens qui sont nos poursuivants, et en plus, on s'installe en face d'une idole qui est la leur, et qui est la seule à être restée entière. Mais alors, c'est une folie. Ils vont poser des questions, ils vont remettre en question. C'est l'occasion, encore une fois, de montrer leur tmimout, leur confiance. Donc Hachem, encore une fois, les teste. Donc on les teste, on en a mis là, avec le Corban Pessah, deux fois, en le prenant 4 jours avant, en lui faisant la shrita la veille. On les teste en partant sans la moindre assise matérielle pour pouvoir assurer la survie de tant de personnes, hommes, femmes, enfants, dans un désert. Et on les teste encore sur le retour en arrière au moment de Yam Souf. Et on les teste encore au moment où il s'agit de rentrer dans la mer. On dit, vous savez, allez-y, Narshon, allez-y, il fonce. Bon, Narshon, il y va, il fonce, il ouvre. C'est facile à dire, mais c'est facile à faire. Et il rentre dans l'eau, ça ne s'ouvre pas tout de suite. C'est pas qu'il met les petits doigts de pied dans l'eau. Et ça y est, ça s'ouvre. Non, il rentre. Et il arrive, l'eau lui arrive là, ici, aux narines. Et c'est toujours pas ouvert. Alors il demande à Hachem, qu'est-ce que je fais là ? Je vais noyer. Et à ce moment-là, ça s'ouvre. En fait, il y a une sorte de tmimout, une sorte de confiance nécessaire. Sinon, on n'aurait pas pu avoir... Là. Et où c'est écrit tout ça ? Alors tout ça est écrit dans une Gemara dans Shabbat. Sa Gemara dans Shabbat, page 88, nous rappelle qu'au moment où Rava était en train d'étudier la Torah, eh bien il y a un Sadducéen qui lui a dit « Rava, regarde ce que tu es en train de faire, Rava est en train d'étudier. » Il est en train d'écraser, sans le savoir, son petit doigt de pied ou de main, parce qu'en fait, il étudie une façon un peu particulière. Il est agenouillé, il a mis ses pieds un peu bizarrement, et il est en train d'appuyer, sans le savoir, sur un de ses doigts. Il ne se rend pas compte, il est en train d'étudier. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à force d'appuyer dessus, il y a une plaie, une blessure, et il y a du sang qui coule. Donc, il y a son voisin, le sadducéen, qui dit, attendez, franchement, Rava, regarde ce que vous faites, vous êtes en train de... Il voit, il comprend que Rava est en train de se concentrer, qu'il est en train d'essayer de comprendre quelque chose, une question très épineuse, et de trouver une solution. Donc, il est en train d'appuyer très fort sans s'en rendre compte. Il dit, mais c'est que la Torah est trop dure. Hachem vous a demandé des choses que vous prenez bien. C'est compliqué. Vous, Rava, monsieur le génie du peuple juif, vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose. Alors, qui va comprendre ? Donc, c'est finalement au-dessus de votre niveau. Alors, ça suffit. Vous avez dit rapidement, mais en fait, vous faites une erreur. Regardez, c'est trop dur. Trop dur. Et qu'est-ce qu'il répond, Rava ? Il dit, nous sommes un peuple de... Tmimout. Effectivement, nous sommes fiers d'avoir eu cette confiance. C'est-à-dire, effectivement, ça paraît être au-dessus de nos forces, mais nous, on dit comme ça. On dit, nous, on s'engage, on signe sur un chèque en blanc, on signe sur une page blanche, Hachem y remplit au-dessus, et on dit à Kadosh Baruch Hu, Na'ase Venishma. En fait, il lui dit que toute la sortie d'Égypte était une préparation à... au service, à ce qu'on nous devons faire sur le Mont Sinaï, parce que tout le but, c'était d'arriver au Mont Sinaï. Or, tout ce qui s'est passé au Mont Sinaï n'est possible que parce qu'on a dit Naaseh Venishma. Et qu'est-ce que c'est Naaseh Venishma ? C'est mettre une signature sur une page blanche. C'est-à-dire s'engager sans savoir vers quoi on s'engage. Ce qu'on appelle une forme de tmimout, une forme de confiance qui peut être des fois appelée, certains traduits, tmimout, simplicité.
Innocent.
Mais dans certains cas, ça veut dire bêtise. Un tamim, c'est souvent, on dit ça d'un monsieur naïf, d'un monsieur qui est trop ingénu, effectivement, qui ne se pose pas de questions, qui accepte tout de suite les choses sans réfléchir. Et chers amis, écoutez bien ici, cette dimension, cette confiance est absolument indispensable. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? On ne sort pas d'Égypte. Pourquoi ? Parce que l'Égypte représente cette effronterie, et que pour sortir d'Égypte, il faut couper le cordon ombilical qui nous injecte sans arrêt un venin. Et ce venin égyptien, si on n'y arrive pas à s'en séparer, eh bien, on est incapable de sortir d'Égypte. On ne peut pas recevoir la Torah, on ne peut pas sortir d'Égypte. Impossible. Mais pour y arriver, Hachem a donné une sorte de force à Moshe, à travers évidemment les paroles d'Akadosh Baruch Hu, et on voit que Paro... Léat, lentement, baisse un peu son arrogance. Maintenant, il faut comprendre la chose suivante. Fin des temps, c'est une période où, dit-il, dans Brachot, page 10, c'est très important cette référence, Brachot, page 10, on parle de Gog et Magog, en disant « Kloum yesh eved mored al rabo » Gog et Magog, ce qui les caractérise, c'est une forme d'arrogance. Une très grande arrogance. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on trouve encore une fois, de nouveau, en une période pré-messianique, des personnes particulièrement arrogantes. Il y a deux types de juifs. Il y a des juifs qui sont ignorants, et c'est la très, 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 très grande majorité. Il y a des juifs qui sont croyants, et il y a des juifs qui sont anti, mais d'une façon virulente, anti-Torah. Bon, ils sont très peu nombreux, mais ils sont là. Et ils correspondent à Datan et Aviram, c'est-à-dire ceux qui se baignent dans une ambiance générale qui est celle de l'arrogance. Parce qu'on a expliqué dans Sota tout à l'heure que la fin des temps est caractérisée par une forme d'arrogance, un manque de respect, mais qui est chronique. Aujourd'hui, c'est tellement d'actualité que c'est même pas la peine de faire de longues présentations pour expliquer de quoi je parle. Mais cette notion-là d'arrogance, elle est d'actualité et elle est simplement en train de nous dire que c'est que la caractéristique, d'après la Gemara dans Brachot, page 10, de Gog et Magog, c'est-à-dire ces fameux peuples qui doivent se faire la guerre avant la fin des temps. Donc devant cette arrogance, nous sommes nous-mêmes devenus arrogants. Il y a des gens qui captent cette arrogance et qui la canalisent vers, malheureusement, un rejet de la Torah. Alors que nous devons comprendre que pour sortir d'Égypte, il n'y a qu'une seule condition. Il y a cette notion de tmimout, une certaine forme de entre guillemets, de confiance. Alors, ce n'est pas une bêtise, c'est Yaakov qui est appelé Ish Tam. L'homme Tam. C'est quoi Ish Tam? Tamim. Alors, je vous rappelle qu'au moment de la Brit Mina aussi, parce que j'avais oublié de le dire tout à l'heure, Brit Mina, c'est aussi écrit Tamim Tiyei Mashem Elokecha. Tu seras, entre guillemets, dans une confiance absolue, dans une forme de naïveté, mais une naïveté décidée. Une naïveté, on va dire,
consciente.
Pas une naïveté inconsciente, une naïveté consciente. Je décide d'avoir de la naïveté. C'est quoi? C'est qu'en fait, je veux me laisser, je veux créer un lien. C'est bien ça qui est très intéressant ici. C'est le point au niveau psychologique, c'est très intéressant. Lorsque je suis en face de quelqu'un dont je suis très loin idéologiquement, au niveau de ma nature, au niveau de mon histoire, de mon vécu. Ce monsieur, il me dit, est-ce qu'on peut travailler ensemble? A priori, rien à faire ensemble. On n'a rien à faire ensemble. Toi, tu es comme ça, et moi, je suis à des années-lumière. La seule option qui me permette éventuellement d'imaginer un rapprochement, c'est une forme de tmimout, c'est-à-dire, écoutez, monsieur, très franchement, ma vie passée ne me permet pas, je ne trouve pas d'arguments suffisants pour tout simplement avoir suffisamment d'arguments pour me placer comme étant votre second et d'être travaillé avec vous. La seule chose sur laquelle on peut évaluer ce candidat et peut-être l'engager, c'est une forme de tmimout. C'est-à-dire, si vous acceptez de suivre mes conseils, mes ordres, je vais utiliser les qualités qui sont en vous. D'accord, vous avez des qualités. Ces qualités-là n'ont jamais œuvré dans la direction qui est la mienne. Mais si vous acceptez de suivre d'une façon très fidèle mon orientation, je peux vous engager en faisant fi de tout ce que vous avez fait précédemment. Mais s'il n'y a pas cette fidélité, impossible de me rejoindre. On est d'accord? Parce qu'en général, vous recrutez des gens dans votre... Alors c'est très intéressant. Parce que si vous regardez la politique française de maintenant, c'est très intéressant. Vous avez un type qui s'appelle Macron, il a dit « Ayez confiance en moi ». Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, il a créé un système, il a essayé de créer un système dans lequel c'était ni gauche ni droite, ni s'il voulait sortir des sentiers battus. Donc il dit, si vous voulez qu'on réussisse, il faut que vous ayez confiance en moi, que je vais trouver un nouveau chemin. Donc vous allez sortir de vos schémas habituels pour suivre un nouveau schéma que je vais vous proposer. Maintenant, si la personne elle-même perd de sa force et de son incarnation, donc vous n'avez plus rien. Parce que les gens reviennent à ce qu'ils ont toujours été et des schémas préétablis. Mais si vous voulez les faire sortir d'un schéma, dans ce cas précis, la seule façon, c'était d'incarner soi-même ou d'être tout simplement soi-même un leader charismatique qui fait que tout le monde a confiance en vous. Et à ce moment-là, on est prêt à suivre bit-mimout, avec une forme de naïveté consciente, ce que vous allez nous proposer. D'où sa grande faiblesse et sa force de l'époque. Sa force de l'époque venait d'une proposition de sortir de sentier battu, et sa force de sa faiblesse aujourd'hui, c'est de ne plus incarner et de ne plus être leader sur lequel on peut avoir une confiance absolue. C'est ça qui est très, c'est intéressant, je dis ça juste, je parle politique,
mais... aussi que l'effronterie a augmenté aussi, peut-être.
Voilà, mais l'effronterie, pour en sortir, il faut que tu aies la tmimout. Écoute bien ce que je veux te dire, c'est que l'effronterie, elle est dans l'air du temps. Maintenant, tu peux la combattre si tu as une forme de confiance en une valeur pour laquelle tu donnes allégeance. Donc en donnant allégeance à cette chose-là, tu sors de l'ambiance effronterie en ayant une confiance, etc. Mais si la personne à qui tu avais confiance, tu n'as plus confiance, tu reviens vers l'origine, et l'origine, c'est l'effronterie.
Oui, mais il n'y en a qu'un cinquième qui est sorti.
Oui, non, d'accord. Bon.
Non, mais c'est-à-dire que c'est pas forcément, tu peux pas avoir tout le monde. Donc voilà. Quand l'effronterie prend la parole et quand l'effronterie contamine, voilà. ce que faisait Dathan et Abiram, c'est-à-dire qu'ils allaient et ils ont contaminé jusqu'à Korah quand ils sont
arrivés
à Korah, à un moment donné, c'est la remise en cause de l'autorité.
Exactement. Exactement.
Exactement ça.
Alors ce qui est extraordinaire, regarde bien, maintenant si tu veux relire la parashah de cette façon-là, tu vas dire comme ça. Au début, tout le monde est Dathan et Abiram, potentiellement. Potentiellement, tout le monde est Dathan et Abiram. Donc Moshe, il essaye de créer une sorte d'adhésion. Donc il cherche à convaincre. Au début, les Juifs n'entendent pas. Vient le Zohar Kadosh, il nous dit que toutes les makotes, ce ne sont pas, comme on le croit, des makotes sur les Égyptiens. Ce sont des makotes dirigées vers les Juifs. Donc les Juifs ne sont pas des victimes, mais ils sont là comme des élèves qui apprennent et qui voient ce qui se passe avec les Égyptiens et qui finalement s'éloignent un petit peu de l'emprise égyptienne. Jusqu'au soir du Seder où ils sont prêts à suivre. Mais il n'y a que 20%, on est bien d'accord. 4 cinquièmes sont morts dans la parasha de Bo. 4 cinquièmes dans la parasha de Bo. C'est écrit au début de Béchalach, Chamushim. 1 cinquième seulement sont sortis. 4 cinquièmes sont morts dans Chosher. Ça veut dire que véritablement, il y a une grande difficulté de laisser passer un schéma bien connu pour un schéma qui est, on va dire, hypothétique.
Et difficile.
Et l'adhésion est une forme de tmimout. Cette adhésion, en plus, ne peut pas ça. On peut pas s'arroger. On peut pas dire, vous savez, on y croit parce que quoi? T'as quelle preuve? T'as quelle expérience? Qu'est-ce qui s'est passé avant qui prouve que? Donc, c'est qu'une forme de naïveté et de confiance. Donc, si tu perds cette confiance, c'est mort. Donc, il faut absolument un moment que Paro autorise quelque part. Et adhère. C'est pour ça que toute l'histoire d'aller 3 jours, parce que là je vous explique un chidouch atzoum, aller 3 jours, c'était bien mensonge. On partait pas 3 jours, on partait pour l'éternité. Alors pourquoi avoir dit 3 jours? Parce qu'il fallait que Paro puisse accepter. Il n'aurait jamais accepté plus de 3 jours. Et alors, pourquoi avait-on besoin que Paro adhère? Parce que si Paro n'avait pas adhéré, aucun juif ne serait sorti d'Égypte. C'est-à-dire, si Paro n'avait pas cru à un moment à ces 3 jours, s'il n'avait pas baissé la garde en disant « Bon, on va laisser les hommes, non, on va laisser même les enfants, mais on va pas laisser... » Jamais les Juifs auraient pu sortir, c'est-à-dire qu'il fallait une certaine forme de réussite de la part de Moshe sur Pharaon pour que les Juifs acceptent de sortir. Et donc, il fallait lui parler que de 3 jours et pas plus, parce que sinon, il n'aurait jamais dit oui. Et même en parlant de 3 jours, il a dit oui avec des conditions. Mais ça a suffi pour baisser le niveau d'arrogance et de rejet de Dieu pour pouvoir retenir et accepter 20%. Arriver à faire adhérer 20%. Rien que ça, 20%. Et avec 20%, on a tout le peuple juif qui est là aujourd'hui.
Cette double tranchant.
Cette double tranchant.
Ouais. Puisque c'était pour les Hébreux et pour les Égyptiens, tout en sachant que dans tout Tanar, dans les livres prophétiques, à chaque fois on nous dit un tout petit reste. C'est toujours un petit reste qui sort.
Voilà.
C'est jamais la majorité.
C'est toujours 20%.
Ouais. Donc ça doit nous interpeller.
Exactement. Mais en tout cas, il faut bien comprendre, et je termine là-dessus, c'est tout ça est lié au fait que le mot paro, c'est les mêmes lettres que le mot haoref. Haoref, ça veut dire la nuque. Qu'on est appelé keshé oref. Et la raison pour laquelle on parle de oref, parce que c'est la nuque, et la nuque, c'est ce qui est au niveau du cou. Et le cou, c'est ce qui sépare la tête du reste du corps. Et ce qui sépare la tête du reste du corps, c'est en fait, d'après les sifrei Kabbalah, la paracha de Vaera est une paracha qui parle de 7 makot. Et la paracha de Bo parle de 3 makot. Et en fait, entre les deux, il y a une sorte de passage, ça s'appelle le cou, le oref. Et ce qu'il faut, il faut comprendre, c'est que d'après Sifrei Kabbalah, tous les 3 makot de paracha de Bo, ça correspond à Chochma Bina Vadat, c'est-à-dire la conception. Alors que les 7 makot correspondent aux 7 sfirot plus basses qui parlent de la réalisation des midot qui sont liées à l'action. Donc je suis généreux, je suis au contraire exigeant et rigoureux, etc., etc. Donc on sépare 7 de 3. Entre 7 et 3, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Barad. Barad, c'est la dernière des 7. Et Barad, c'est une dualité, puisqu'il s'agit de feu et de l'eau qui font la paix et qui se retrouvent dans une même morceau de glace. Barad. Barad, c'est la grêle, mais dans la grêle, il y avait du feu. Et le feu et l'eau ont fait la paix exceptionnellement. Et Barad, c'est bête, Resh Dalet, 2, 200 et 2 fois 2, 4. Bird, en bon français, en arabe, ça veut dire, la froid, la glace. Et donc en fait, Barad correspond au passage entre les 7 et les 3. Les 3 touchant la conception et les 7 la réalisation. Et pour passer de l'un à l'autre, il y a le cou. Et le cou, c'est Barad, parce que Barad, il y a deux, ce sont la trachée artère et l'œsophage, ce sont les deux éléments principaux de notre cou, qui font passer la nourriture et la respiration, l'oxygène. Et donc on voit que dans notre corps aussi, il y a une sorte de volonté de rappeler qu'on doit savoir est-ce qu'on est prêt à faire passer notre conception et de la transformer en sensibilisation et en action. C'est ça tout le problème d'un être humain. Or paro, irbati et libo, plus je le frappe, plus il s'endurcit. et donc qui n'est pas capable, même s'il voit la vérité quelque part, d'adhérer à cette vérité. Mais un juif, il doit avoir, il doit pas avoir le kshéoref, la nuque dure, il doit être capable de faire passer ce qu'il comprend dans son action. Parce qu'en vérité, nous ne l'aurons pas. Beaucoup de gens qui sont très effrontés, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il y a une vérité, et que cette vérité est trop dure, parce qu'elle leur impose un grand changement dans leur vie. Donc ils sont obligés de la refuter pour vivre avec une conscience tranquille. Donc le problème se passe au niveau de la muque, c'est-à-dire le passage entre la tête et la réalisation et la sensibilisation que représente le reste du corps. Voilà un petit peu, en quelques mots, une réflexion sur le 7 de Vaera et le 3 de Bo El Paro. Il s'agit d'aller et de toucher le Haoref, de toucher véritablement cet endroit-là, pour pouvoir tout simplement transformer. Et on voit que ça marche. Ça marche, parce qu'il ouvre un peu la porte. Et donc, il y a la Tmimout qui peuvent s'engager. Donc, j'ai répondu ainsi aux questions du départ. Il fallait que Paro soit prêt à donner un petit peu de ses animaux pour qu'on puisse nous-mêmes envisager d'en importer. Parce qu'il faut qu'il adhère un peu. Il ouvre un peu la porte, au minimum un petit peu, pour qu'on découvre une certaine forme de confiance en Dieu. Parce que sinon, on est tellement, tellement dans l'Égypte que finalement, on a du mal à s'en sortir. Et vous avez un dernier remède. Je vous ai parlé de l'accouchement. Donc le soir du Seder, c'est un accouchement. C'est l'expulsion. C'est Makat Bechorot. Donc Makat Bechorot est mis de côté. Il reste 9 Makot qui nous font penser aux 9 mois où une maman porte son enfant. Ici, il y a 9 Makot et il y a 9 mois. Parce que c'est effectivement comparable à cette création du fœtus qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui est le peuple juif, qui va finalement être créé le soir du Seder comme si un enfant qui va naître ce soir-là, et donc c'est la naissance du peuple juif. Abotai, je vous souhaite un Shabbat Shalom. Rendez-vous la semaine prochaine, mais dans un autre lieu, 8 rue Boutard. Dans quel étage, je ne sais pas, mais un des étages du 8 rue Boutard. Rabbi Hanan Joël Ratzak, pour les accords.